pour chaque séance. On a deux séances aujourd'hui, une feuille avec tous les passages que nous allons voir ensemble, comme ça vous n'aurez pas à chercher. Et aussi, s'il y a quelque chose qui saute aux yeux, vous pouvez le noter et peut-être poser des questions après, si vous voulez. J'aimerais bien que vous, si je dis quelque chose qui n'est pas clair ou qui provoque une question, que vous m'interrompez, ok? Doucement. Comme ça, je peux répondre tout de suite à la question si c'est important. Okay? Si c'est quelque chose qui peut attendre jusqu'à la fin de chaque séance, à la fin de chaque séance, je donnerai l'occasion de poser des questions, de répondre aux questions. Dans un premier temps, c'est-à-dire cette séance, nous allons voir, je ne sais pas si je peux les appeler les principes, mais au moins les grandes lignes de ce que nous allons voir, surtout aujourd'hui, mais ça va introduire aussi ce qu'on va voir dans les deux autres études, les deux autres samedis. Et surtout dans la deuxième partie aujourd'hui, il y aura plusieurs exemples que nous allons voir de l'amour de Dieu, que peut-être vont provoquer ou évoquer les questions. Donc, sentez libre, comme j'ai dit, de m'interrompre si ça vous chante de le faire. Ne chantez pas, mais vous pouvez poser des questions quand même. Okay? Bon, il est mon souhait qu'à travers ce séminaire, que notre connaissance de Dieu soit approfondie et qu'ainsi nous ayons une relation plus profonde avec Dieu et qu'ainsi aussi avoir une relation plus respectueuse de Dieu, parce que connaître Dieu, c'est bien aussi l'apprécier et ainsi essayer d'avoir du respect pour lui. Comme c'est probablement votre cas, ce que je connais de Dieu vient de plusieurs sources. Ma connaissance à moi peut être attribuée en partie à l'enseignement reçu dans ma famille, mais aussi à mes professeurs, parce que quand même j'ai fait des études de la Bible au niveau universitaire. Et Dieu merci aussi, j'ai une connaissance de Dieu à travers des personnes que je connais qui croient profondément en Dieu et qui vivent leur foi, qui expriment leur foi comme vous. Donc j'apprends de vous des choses au sujet de Dieu. Et aussi, bien sûr, j'attribue une bonne partie de ma connaissance de Dieu à mes propres études de la parole. Bonjour. C'est-à-dire de la Bible. J'attends. Oh, bonjour, mesdames. C'est bon. Vous devez avoir des feuilles sur les chaises. Vous avez assez de chaises, là? Voilà. Okay. Il y a déjà, d'accord. Vous aurez une feuille chacun, donc ce sont les passages de la Bible que nous allons consulter. Je vous donnerai une deuxième feuille à la deuxième séance. Et je répète que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si je m'exprime mal dans mon français ou peut-être ma façon de le dire, qu'il faut m'interrompre et me poser des questions, ça ne me gêne pas. Aussi, je vais dire que je suis croyant, profondément croyant. Je crois en Dieu, je crois profondément à sa parole qui est la Bible. Et j'étais en train d'expliquer où devient ma connaissance de la Bible ou de Dieu. Ça vient de, bien sûr, de l'enseignement que j'ai reçu dans ma famille, aussi de mes parents, c'est-à-dire mes parents et aussi de mes professeurs, mais aussi de mon contact avec des gens qui sont croyants, qui vivent leur foi profondément et qui exercent leur foi. Et aussi, bien sûr, j'attribue une bonne partie de ma connaissance de Dieu à mes propres études de la parole, de la Bible. Comme vous, je veux connaître Dieu. Je cherche à avoir une connaissance plus profonde. Mais il y a des moments où je me sens poussé presque contraint à le mieux connaître à cause des questions difficiles que je me suis posées. Les pourquoi, les pour quelles raisons ou les comment. Et je crois que chaque personne, à un moment ou l'autre dans sa vie, passe par des moments difficiles où il, elle est contrainte de se poser des questions. Et c'est en se posant la question qu'on arrive à avoir parfois des réponses. Pas toujours, pas toujours. Il y a des choses qui nous dépassent parfois. Et ainsi, que ce soit par l'influence des autres, par le désir personnel de connaître Dieu, ou à cause de la détresse, ou à cause de mes préoccupations qui me poussent à le mieux connaître, à le fin résultat, heureusement, et que je le connais mieux. Et aussi, je l'aime davantage. Et bon, en réalité, l'expression « le fin résultat » n'est pas juste dans mon cas. J'espère que ce n'est pas vrai pour vous non plus. Car aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, pour notre mieux, nous devons continuellement approfondir notre connaissance de Dieu afin d'avoir une meilleure compréhension de sa personne et aussi de ses actions et en vue d'avoir un plus grand respect pour lui. Tout cela donc en vue d'avoir une relation plus personnelle aussi avec lui. J'aimerais qu'on lise ensemble le premier texte que vous avez sur la feuille, le Jean chapitre 17, verset 1 à 3. C'est un récit, c'est la première partie d'une prière de Jésus. Et on va lire les versets. Après avoir ainsi parlé, c'est la nuit de son arrestation, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bon, au début de cette prière, où nous découvrons ce qui était réellement sur le cœur de Jésus cette nuit-là, parce qu'on lit la suite de la prière, on voit ce qui était ses préoccupations. Ce verset, cette prière nous rappelle une chose primordiale au sujet de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Et il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle de Dieu. La connaissance intellectuelle a son importance, oui, mais ici, c'est une connaissance que je dirais réelle ou intime grâce à une révélation ou à une relation même. Dieu s'est révélé à l'homme. Et dans ce cas ici, il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est en train de dire que me connaître ou connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle, avoir une relation avec Dieu. C'est l'expérience de Dieu, plutôt de l'expérimenter, si on peut le dire comme cela. Sans cette relation avec Dieu, sans cette expérience de Dieu, il n'y aura pas de vraie vie, ni de qualité de vie sur cette terre, ici-bas, ni de vie éternelle non plus. Un autre sens du mot connaître dans certaines sociétés, aussi dans la Bible, nous aide à saisir la profondeur de la relation personnelle voulue par Dieu. C'est Dieu qui veut cette relation personnelle et bien sûr il veut que nous cherchions cette relation aussi. Mais le mot connaître est a parfois une connotation sexuelle. Dans la Bible et dans certaines sociétés anciennes surtout, où lorsque le mari et la femme ont eu des rapports, l'acte est décrit comme une connaissance. Il a connu sa femme Ève, par exemple dans le cas d'Adam et Ève, et elle a conçu et enfanté un fils. Et ça se répète plusieurs fois dans l'Ancien Testament, d'où on va tirer la plupart de nos exemples aujourd'hui. Mais connaître Dieu dans le sens biblique, du terme, c'est expérimenter sa personne, ses pensées, ses actions dans le monde et dans sa propre vie. C'est une relation intime que Dieu cherche avec l'homme. Et c'est pourquoi on peut prendre ce mot connaissance dans son autre sens et presque l'appliquer à Dieu. Bien sûr, il est esprit, on n'a pas de relation physique comme dans le mariage, mais quand même, ça exprime le mot, le sens du mot. Dans certains textes, exprime la profondeur de la relation que Dieu cherche avec l'homme. c'est d'être en sa présence, et c'est d'être en lui. Et je souligne le mot, les deux mots « en lui », ce qui est maintes fois dans le Nouveau Testament une façon de décrire la relation du chrétien avec Jésus. Parce que vous trouverez des phases où il est dit « en lui, en Christ, en Jésus ». Ça montre encore une relation grâce à une connaissance, grâce à une soumission à sa personne. C'est de le connaître personnellement afin de l'écouter et de lui obéir. Maintenant, j'aimerais qu'on lise le deuxième, je crois que c'est le deuxième passage qui est marqué là, c'est Jérémie chapitre 9, verset 23, où Dieu dit quelque chose à son peuple à travers son prophète Jérémie. Il s'adresse au peuple de Juda, donc le royaume du sud, après la division du pays. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Surtout, j'apprends de ce passage-là et beaucoup d'autres que Dieu veut que nous le connaissions et que nous le comprenions. Ce n'est pas chose facile, n'est-ce pas? Il est certain qu'il s'attend à ce que nous nous soumettions à lui comme Seigneur pour lui obéir. Il est certain qu'il veut que nous le connaissions profondément et d'une manière personnelle comme Père ou comme Marie, parce que ces deux images de Père et de Marie sont employées souvent dans l'Ancien Testament pour décrire Dieu, pour qu'on puisse saisir un peu plus sur sa personne. Par exemple, Psaume 103, versets 13 et 14, que nous allons revoir dans un moment, en entier, ou presque en entier. « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Lorsque Jésus parlait avec ses disciples, ou aux foules, il a identifié Dieu comme votre Père. Et puis, Jésus a dit que Dieu est le bon Père qui sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Ça, c'est juste avant de donner l'exemple de comment prier dans Matthieu 6, ce qu'on appelle le Pater ou le Notre Père. Juste avant cela, il explique que Dieu est le bon Père qui sait de quoi nous avons besoin. Pouvons-nous, voilà la question que je me pose, pouvons-nous vraiment connaître et comprendre Dieu? Quand je lis les passages comme Ésaïe 55, versets 8 et 9, où Dieu a dit que ses pensées sont au-dessus des pensées de l'homme et qu'il n'y a pas de comparaison, il me semble qu'il est difficile, qu'il soit difficile, sinon impossible, de le connaître réellement. Quand je lis les passages comme ça, et pourtant, il n'est pas logique de dire qu'il est impossible de le connaître. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Il n'est pas impossible de le connaître, car malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre recherche de Dieu, il y a littéralement des centaines de passages qui disent qu'il veut et qu'il prend plaisir dans notre connaissance de lui. En effet, c'est le but de la Bible, n'est-ce pas, de révéler Dieu. Et quand les apôtres ont demandé à Jésus plus tard, « Montre-nous le Père », qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Jésus était la manifestation physique et spirituelle de Dieu sur terre. Et tout ce que Jésus a fait, Dieu est comme ça. Et donc la Bible révèle Dieu. Le but de la nature aussi est de révéler Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 1. Et cela veut dire qu'il n'est pas impossible de le connaître, mais plutôt qu'il est impossible de ne pas le connaître, que l'on soit même sans excuse si on ne le reconnaît pas et ne l'honore pas. Bon, la profondeur de notre connaissance, ça c'est la difficulté. Voilà la difficulté. Parce que ça dépend en partie de notre désir, ça dépend des des expériences que nous avons eues, de toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher, le plus souvent c'est une attitude qui nous empêche de connaître Dieu. Mais on peut le connaître. La Bible introduit Dieu avec ces mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais aucune preuve est donnée de son existence. Aucune. L'existence de Dieu passe pour un fait avéré. La question de l'existence de Dieu n'est même pas considérée comme une question importante dans la Bible. Ce n'est pas là la question importante. Ce que la Bible considère important, c'est notre compréhension de lui, ou de notre réaction à lui, ou de notre comportement devant lui. Voilà ce que la Bible considère important. Comment est-ce qu'on va réagir face à ce Dieu qui se révèle à l'homme? Notre foi en Dieu, ou notre manque de foi, aura donc son effet dans notre vie. La foi en Dieu, selon la Bible, veut dire croire en lui comme notre Créateur et croire que nous devons lui obéir. Il y a le texte en Hébreux 11, verset 6, que vous avez là devant vous. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et dans tout le reste du chapitre, ça parle de ce que c'est de vivre par la foi, d'avoir la foi. Et chaque fois, il y a des exemples des personnes qui sont données. La personne a eu la foi, ou avait la foi, et grâce à cela, a obéi, a fait quelque chose, a démontré sa foi en Dieu. Maintenant, je pose la question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et voilà, j'arrive maintenant à ce que nous allons voir dans ces séances. Nous aurons 6 études ensemble, si vous pouvez être là toutes les fois. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour de Dieu. La prochaine fois, c'est-à-dire samedi prochain, la sainteté de Dieu. Et le samedi après, la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, comme j'ai dit, voir l'amour de Dieu dans les actions de Dieu. Parce que si vous étiez là au mois de novembre, ou si vous voulez avoir des cassettes du mois de novembre, il y a eu déjà une étude sur la personne de Dieu ou les attributs de Dieu, comment est-ce que tu l'as, la nature de Dieu. Mais cette fois, je vais essayer d'être, je ne sais pas comment on peut dire, plus concret en montrant des actions de Dieu qui démontrent chacun de ses qualités, c'est-à-dire son amour, sa sainteté et sa justice. Mais j'ai choisi cet ordre-là pour parler de Dieu, d'abord de son amour. Mais avant de parler de Dieu dans cet ordre, à commencer par l'amour, j'aimerais quand même dire un mot sur sa sainteté, que nous verrons la prochaine fois. Donc il se peut que je me répète un peu la prochaine fois, je verrai. La sainteté de Dieu, qui est pour moi la totalité de sa personne, se compose à la fois de son amour et de sa justice. Je dirais même que la sainteté de Dieu comprend tous ses attributs, tels aussi que sa souveraineté, sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, et toute la liste des attributs de Dieu que vous pouvez découvrir dans la Bible. Mais en regardant ces deux qualités d'amour et de justice, nous verrons que la sainteté de Dieu serait impossible si l'un de ces deux composants manquait. C'est-à-dire, une justice sans amour ne serait pas sainte. Ou, le contraire, un amour sans justice ne sera pas saint, ne serait pas saint non plus. Mais il est souvent difficile, sinon impossible, de toujours distinguer entre les deux. Et j'ai dit tout à l'heure à Charles, avant de commencer, que parfois, quand on veut parler de l'amour de Dieu, on ne peut pas éviter de parler aussi de sa justice. Parce que le vrai amour est juste. Et la vraie justice est tempérée par l'amour. Et c'est ça la sainteté de Dieu. Il est les deux à la fois. Mais je veux dire, donc, par cela que l'amour de Dieu et sa justice sont tellement partenaires, ou qui vont de pair, qui travaillent ensemble qui sont un ensemble. On ne peut pas les séparer pour former sa sainteté qui exige la sainteté de Dieu, la pureté, la loyauté et l'exclusivité. Qu'est-ce que je veux dire par exclusivité? C'est-à-dire, Dieu dit, il ne doit pas avoir d'autres dieux devant moi. Il ne faut pas tailler d'autres dieux, c'est-à-dire les idoles. Le Christ dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Mais avoir cette exclusivité ou prétendre à cette exclusivité, demandez pas. Pourquoi peut-il exiger cela? Bon, si on comprend Dieu, on peut comprendre pourquoi cette exclusivité. Donc, la sainteté de Dieu exige la pureté, la loyauté et l'exclusivité. Nous allons regarder dans les deux premières séances cet après-midi, c'est-à-dire maintenant et puis dans quelques minutes, que Dieu est amour. Et qu'ainsi, je le dirai comme ceci, Dieu est le Dieu qui aime. Je préfère employer le verbe, le Dieu qui aime, parce que l'amour, dans ce sens, est actif. Dieu fait quelque chose parce qu'il aime. L'amour de Dieu pour l'homme est le mieux compris par le mot grec agapé. En grec, le grec, la langue était très riche. Il y avait quatre mots pour amour. Il y avait agapé, il y avait philéo, il y avait eros et storgé. Storgé, c'était un amour dans la famille. Eros, l'amour émotionnel, physique. Philéo, plutôt, je suis un peu simpliste dans ce que je dis, si on le dit comme cela, mais philéo, c'est un peu l'amour fraternel entre amis. Il y a une ville aux États-Unis d'où je viens qui s'appelle Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, je crois que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Et puis l'agapé. Et l'agapé, c'est l'amour pour moi qui décrit mieux Dieu, qui est un amour, et voilà bien, il faut bien saisir ce sens, un amour qui veut le bien-être de l'autre, malgré la condition de l'autre, malgré la réaction de l'autre. Il veut le bien-être de l'autre. Donc, en premier lieu, son amour, l'amour de Dieu, n'est pas un amour émotionnel. Mais, je le dis comme ceci, c'est un amour décisif, c'est-à-dire Dieu décide d'aimer. Il décide de faire le bien pour l'autre, même que l'autre réagit contre son amour. Il fait toujours le bien, il veut toujours le bien envers l'autre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien sûr, Dieu veut la réciprocité, mais il ne l'attend pas pour agir. Comme un homme et une femme, un homme, il voit une femme qu'il rencontre et elle lui plaît. Et il aimerait avoir une relation, c'est-à-dire développer une relation d'abord d'amitié et peut-être plus loin, je ne sais pas. Mais puisqu'il a ce sentiment-là, il veut faire quelque chose. Mais c'est plutôt un amour émotionnel, ça. Parce que jusque-là, ce n'est pas vraiment vouloir le bien-être de l'autre malgré la réponse de l'autre. Mais Dieu veut quand même la réciprocité. C'est-à-dire, il aimerait qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime. Dieu veut la réciprocité. Il n'attend pas pour agir quand même. Et de ce fait, puisque Dieu aime, et puisqu'il voudrait avoir de l'amour en retour, il y a le fait qui nous choque peut-être, mais que Dieu peut souffrir. Dieu peut souffrir à cause de manque de réciprocité. Je veux dire par cela que son amour peut être rejeté, et ça fait mal. Et ainsi son amour est vulnérable, il peut être attristé. Il y a des passages qui parlent d'attrister le Saint-Esprit. Et donc, le rejet de l'amour de Dieu, ou la rébellion contre l'amour de Dieu, peut l'attrister. Nous voyons ceci dans l'histoire du fils prodigue, dans l'évangile selon Luc, que Jésus raconte. Ce n'est qu'une histoire, je ne crois pas que c'est quelque chose qui a réellement eu lieu, mais il raconte cela pour montrer quelque chose. Et l'angoisse du père dans cette histoire, je crois que tout le monde le connaît, n'est-ce pas, la connaît. L'angoisse du père et ses soucis pour son fils se voit par le fait qu'il guette le retour de ce fils qui a tout abandonné, qui a pris son héritage et est parti dans un pays lointain, a tout dissipé, a tout gâché, gaspillé, qui vivait dans la débauche et tout ça, dont le père, il guette, il veut que cet enfant revienne, ce fils revienne à lui. Et donc, l'angoisse du père et ses soucis pour son fils sont contrastés avec sa joie quand le fils revient. Et cette relation entre le père et le fils prodigue était représentative de la relation de Dieu avec Israël, qui n'a pas vécu en bonne relation avec Dieu, qui a abandonné les préceptes de Dieu pour faire ce qu'elle voulait. En effet, dans cette même histoire, le fils aîné nous dit longuement sur le peuple d'Israël, aussi surtout les chefs du peuple, et leur rapport avec Dieu qui aime, le Dieu qui aime, eux qui étaient jaloux de cet amour offert à ceux qui n'ont pas jugé digne de l'amour de Dieu. Et donc il y a deux leçons qui se trouvent dans cette histoire du fils prodigue. Mais je crois que notre compréhension de Dieu doit se centrer sur le fait qu'il est amour. C'est son essence, c'est sa personne, il n'est pas comme cela, il est cela. 1 Jean 4, verset 8, qui est sur la feuille, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On ne peut pas dire que j'aime Dieu, que je connais Dieu, si je n'aime pas mon prochain. Aimer, bon, quelle grande responsabilité, quelle lourde responsabilité, quel risque Dieu prend quand il nous aime. Par amour, Dieu a pris le risque d'avoir donc une relation avec l'homme. Dès la création du monde, c'était son intention d'avoir une relation, mais l'homme ne l'a pas toujours voulu, cette relation. Et c'est dommage, car Dieu a tellement à nous offrir. Dieu a déjà fait tellement, il a déjà donné tellement dans le passé qu'il donnera encore pour nous. Et quand on le rejette, c'est dommage, parce qu'il y a tellement là. Bon, il y a trois passages qui démontrent bien l'amour de Dieu, qui soulignent en même temps son image de Père que j'ai soulevé tout à l'heure. Premièrement, l'un de mes passages préférés de la Bible, car dans ce passage, plusieurs des qualités de Dieu sont apparentes. Surtout son amour constant, sa compréhension de notre faiblesse humaine et de sa justice. Bref, ce psaume de David est saturé de la sainteté de Dieu. J'ai déjà lu deux versets tout à l'heure, on va relire maintenant tout un texte de 18 versets. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. Et dans mes notes, j'ai souligné quand même quelques phrases ou quelques mots qui ressortent de ce texte. On commence au verset 4, il y a la bienveillance et la compassion. Au verset 6, il fait justice, il fait droit. Verset 7, il a fait connaître ses voix à Moïse et ses hauts faits au fils d'Israël. C'est-à-dire, il n'a pas laissé ses enfants sans connaissance.